Bonjour et bienvenue sur le podcast En Famille, le podcast de toutes les familles.
Je suis Béatrice Copper-Royer, psychologue clinicienne. Je reçois dans mon cabinet des enfants, des adolescents et leurs familles. Je suis aussi cofondatrice et présidente de l'association e-enfance qui informe et protège les mineurs des dangers potentiels d'Internet. J'ai écrit une dizaine d'essais sur les liens familiaux.
Je suis Marie Guyot, je suis journaliste spécialisée en santé et en psychologie. Dans le cadre de mon métier, j'ai réalisé de nombreux reportages sur les problématiques familiales. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de rencontrer Béatrice. De cette rencontre est née une amitié et l'envie de travailler ensemble, puisque nous avons coécrit 3 livres autour de cette thématique de la famille.
Aujourd'hui, la famille a changé. Elle se sépare, elle se réinvente, elle peut être nucléaire, recomposée, monoparentale, homoparentale. Et de nouvelles questions viennent à se poser.
Dans ce podcast, on se propose d'aborder avec vous les petits soucis et les grands tracas que l'on rencontre dans le cadre de nos relations familiales pour mieux les comprendre et les surmonter.
Ce podcast est rendu possible grâce au soutien de Card, l'application d'argent de poche préférée des familles.
Épisode numéro 15, les grands-parents des maillons forts.
Alors je me souviens que quand j'étais petite et que j'allais chez ma grand-mère, c'était vraiment la fête, c'était vraiment la fiesta. C'est un peu l'endroit où on avait le droit à tout, où on faisait les meilleures choses. À chaque fois on allait au cinéma, elle nous achetait des choses à manger que nos parents ne voulaient pas forcément nous donner. Elle nous faisait des super chocolats liégeois tous les matins. Donc vraiment quand on y allait, c'était un peu la liberté à volonté.
Pourquoi c'est différent avec les parents? Parce que les parents, en fait, comme on les voit tous les jours, c'est pas une habitude, on dit ce qu'on pense et tout. Et parfois, on fait des trucs qu'il faudrait pas faire. Et c'est pour ça, c'est mieux d'être avec les grands-parents.
Quand j'ai eu ma fille, il y a maintenant 2 ans, j'avais décidé de me faire aider pour ne pas être complètement débordée. Et donc, j'ai demandé à ma mère de venir passer quelques jours chez moi après l'accouchement pour avoir du temps, pouvoir respirer, dormir sereinement pendant qu'elle s'occupait de ma fille. J'ai trouvé sa présence très réconfortante et en même temps, très vite, elle n'a pas pu s'empêcher de me faire des remarques, de me donner des conseils, parfois non sollicités.
Alors Béatrice, il y a 5 ans, on a écrit ensemble un livre formidable qui s'appelle « Grands-parents, le maillon fort ». Pourquoi les grands-parents sont-ils aujourd'hui un maillon fort de la famille ?
Eh bien parce que les enfants sont quand même confrontés souvent à des situations familiales pas faciles, notamment il y a quand même énormément de séparations des parents. Donc les grands-parents sont souvent à ce moment-là des recours vraiment réconfortants. Et puis aussi parce que les grands-parents peuvent soutenir leurs enfants, les aider un peu quand la tâche est vraiment très très rude. Ils peuvent les accueillir en vacances, ils peuvent les dépanner dans la journée, etc. Donc c'est un chaînon extrêmement important dans la dynamique familiale et on voit que les enfants d'ailleurs parlent souvent de leurs grands-parents en consultation. On voit que leur place dans l'univers affectif de l'enfant est très importante.
Et au niveau des liens, qu'est-ce qu'ils apportent les grands-parents aux petits-enfants ?
Alors, ils apportent déjà un lien très rassurant parce que dénoué de trop de projections. Ce qui complique un peu les donnes entre les parents et les enfants sont les attentes et les projections qu'on peut faire sur un enfant. Évidemment, on rêve qu'il soit parfait, qu'il soit formidable, qu'il réussisse très très bien, etc. Ou bien on l'associe à des sentiments qu'on a pu avoir, etc. Donc, avec les grands-parents, le rapport affectif est évacué de tout ça. Et c'est un rapport qui, à mon avis, est assez dénué d'ambivalence. C'est un rapport très, très serein, très plein, qui comble tout le monde parce que je pense que c'est un très grand bonheur d'avoir des petits-enfants et c'est aussi un grand bonheur d'avoir des grands-parents disponibles. Mmh. Alors, ils ne sont pas tous de la même façon et on va voir qu'il y a 1001 façons maintenant d'être grands-parents. Il y a plein de grands-parents différents, mais c'est vrai que c'est quand même un lien qui est très, très comblant.
Alors justement, aujourd'hui, il y a une grande diversité de grands-parents. Tu dois en voir d'ailleurs également en consultation. Comment est-ce qu'on peut parler de cette diversité aujourd'hui ?
Alors, il y a toutes sortes de grands-parents, effectivement, puisqu'il y a des grands-parents assez traditionnels qui sont en couple à la retraite, par exemple. On pourrait dire que c'est le tableau le plus traditionnel.
Bon papa et bonne maman.
Voilà, exactement. Ils peuvent être divorcés. Il y en a beaucoup maintenant qui sont divorcés, divorcés seuls, divorcés remariés. Il y en a qui sont encore actifs, grand-mères qui travaillent, des grands-pères aussi. Donc, oui, il y a une diversité de figures grand-parentales importantes, mais de toutes les façons, je crois que aussi ce qui change aujourd'hui, c'est que ce sont les enfants qui vont finalement désigner la place des grands-parents. C'est-à-dire que c'est les enfants qui vont faire que leurs propres parents, qui sont les grands-parents de leurs enfants, vont avoir telle ou telle place et prendre telle ou telle place. Je pense que c'est assez récent, ça, cette position et l'importance de la place que va laisser ou non le parent à ses propres parents.
C'est-à-dire, tu peux nous expliquer un peu plus ça ?
Je pense que si, par exemple, dans un couple, un enfant a eu des attentes très fortes par rapport à ses parents, il va en faire des grands-parents très présents, il va les solliciter beaucoup, etc. Et puis si au contraire, il a l'impression que ils ne sont pas dans le coup, ils ne sont pas de confiance, ou je ne sais pas, où il y a un peu de conflit, il va laisser une place réduite. Donc, ce n'est pas les grands-parents qui vont décider de la place qu'ils vont prendre, c'est leurs enfants qui vont leur laisser une place.
Ouais. Et alors, du côté des grands-parents, est-ce que c'est toujours une bonne nouvelle de passer comme ça à la génération supérieure ?
Je dirais que globalement, oui, même si pour certains, ça arrive un peu tôt et qu'ils ont le sentiment que ça leur donne un coup de vieux. Mais je dirais que d'abord, ça va arriver de moins en moins souvent, ça, parce que comme les femmes ont leurs enfants de plus en plus tard, c'est-à-dire maintenant, la moyenne du premier enfant, c'est 30 ans. Donc finalement, les grands-parents ne vont pas être grands-parents si tôt que ça. Donc oui, effectivement, chez certains, notamment chez certaines femmes, devenir grand-mère, ça leur donne un coup de vieux, surtout si elles ont, je sais pas, entre 48 et 55 ans, par exemple, 50 ans. Elles ont l'impression que c'est un peu tôt et elles sont un peu en rivalité avec leur fille. Sinon, globalement, je pense que c'est un grand bonheur et que la naissance du premier petit enfant qui fait donc devenir grand-parent est une source de vraie joie. C'est un véritable événement.
Alors, dans ce que tu entends dans ton cabinet, qu'est-ce que les parents d'aujourd'hui attendent de leurs propres parents quand ils ont des enfants ?
Alors, ces jeunes parents ont eu des parents qui ont été très attentifs avec eux, qui leur ont donné beaucoup. Hein, c'est déjà une génération de parents qui a eu des parents proches. Donc, cette proximité, s'ils l'ont beaucoup appréciée, ils vont la rechercher auprès de leurs parents en tant que grands-parents. Ils attendent souvent de la disponibilité quand ils en ont envie.
Ouais.
Donc, ce n'est pas toujours très, très simple pour les grands-parents. Mais parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est eux qui mènent le tempo. Et donc, ils vont attendre, par exemple, un service, aller chercher, récupérer un enfant si à la crèche il est malade et qu'ils sont en train de bosser, faire une sortie d'école, les prendre le mercredi ou alors les prendre en vacances. Parce qu'il faut voir que les familles sont dispersées, que tout le monde n'habite pas dans la même ville, la même commune, voire même le même pays. Donc évidemment, ça va dépendre aussi de la proximité géographique des uns et des autres. Hein. Ceux qui ont la chance d'habiter dans la même ville, par exemple, vont solliciter souvent davantage, et notamment de façon plus quotidienne, leurs parents.
Ouais, bien sûr. Et les grands-parents, qu'est-ce qu'ils ont à gagner dans la relation à leurs petits-enfants ?
Ils ont à gagner beaucoup de choses parce que ça rend vivant, je veux dire, ça maintient un peu jeune, entre guillemets, ça donne un coup de jeune, moi, je trouve, d'avoir des petits-enfants.
Ouais.
Parce que, justement, on est dans le projet avec eux, on est obligé de se donner un peu de mal, et puis on leur transmet des choses, et c'est très réconfortant aussi de voir à quel point ils sont sensibles à ce qu'on peut leur raconter de l'enfance de leurs parents, par exemple. Ils adorent qu'on leur raconte comment était leur père ou leur mère quand ils étaient petits, il y a plein de choses qu'ils aiment entendre. On peut leur transmettre aussi des coutumes, les coutumes familiales, la façon de cuisiner, par exemple, en fonction de la culture des familles. Voilà l'histoire avec un grand H ou la petite histoire familiale, tout simplement. Donc, ils ont le sentiment de leur apporter quelque chose, d'être utile. Et en échange, eux-mêmes, surtout quand les petits-enfants grandissent, ils vont s'ouvrir sur le monde, par exemple, des adolescents qui a tellement changé, évidemment, par rapport à eux, parce que ça va très vite. Leurs petits-enfants vont parfois être 10 fois plus, enfin même parfois tout le temps, 10 fois plus habiles qu'eux sur l'usage d'Internet. Internet, donc, je sais pas, ils vont leur montrer comment on prend un billet de train ou donc ils vont les initier aussi à des univers qu'ils connaissent pas, et je trouve que c'est extrêmement enrichissant. En fait, tout le monde a y gagné, et les grands-parents et les petits-enfants, qui trouvent aussi, notamment les plus jeunes, un rythme qui est différent, parce que on est dans une société où tout va très très vite, les parents sont souvent assez pressés. Dès le matin, le premier mot qu'on leur dit, c'est dépêche-toi. Les grands-parents qui sont plus âgés, de toute façon, ils vont un peu plus lentement. Et ils ont une disponibilité de temps qui fait qu'ils s'ajustent davantage au rythme de l'enfant. Donc, c'est très agréable pour un enfant. Au fond, c'est reposant aussi d'être avec des gens qui ont plus de temps. Et d'ailleurs, même les adolescents, ils sont reconnaissants parfois à ces temps d'écoute qui sont plus longs. Les adolescents, parfois, ils disent plus de choses à leurs grands-parents qu'à leurs parents. D'abord, parce qu'il y a un peu plus de distance. Et puis, parce que justement, ils ont l'impression qu'il y a une meilleure écoute. Il y a plus d'attention, vraiment.
Alors là, tu décris des choses très positives. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Qu'est-ce que tu constates comme problématique ?
Il y a une problématique parfois assez basique, assez classique, c'est-à-dire la belle-fille qui ne s'entend pas du tout avec sa belle-mère, par exemple, et donc qui va laisser très très peu de place à cette grand-mère là auprès des enfants, parce que elle est par exemple dans une relation assez fusionnelle avec sa propre mère, et donc les enfants vont passer beaucoup plus de temps avec la grand-mère maternelle par exemple qu'avec la grand-mère paternelle, parce que il va en être décidé ainsi. Donc ça peut être effectivement une source de souffrance, il va y avoir de la comparaison. C'est comme ça, malheureusement, il faut l'accepter et se dire que parfois il y a des grands-mères qui sont plus au quotidien avec leurs petits-enfants parce qu'il y a plus de confiance de la part notamment de la mère, mais que quand on les voit, même si c'est plus occasionnel, ça peut être quand même très joyeux, qu'on leur apporte autre chose, et qu'au fond, parfois même, le rapport quotidien très pratique et concret est moins enthousiasmant que la fête une fois de temps en temps, qu'on peut avoir de façon plus exceptionnelle avec eux. Donc, je pense qu'il ne faut pas comparer, et que c'est comme ça. Mais on voit aussi, malheureusement, des conflits importants entre parents et grands-parents. Et donc, à ce moment-là, il y a des vraies souffrances. Alors, souvent, les enfants ne veulent pas que leurs propres enfants voient les grands-parents parce que le grand-parent est décrit comme soit inquiétant, soit négligent, soit abusif, soit il critique systématiquement ce qui se passe chez les enfants. Donc à ce moment-là, ça devient insupportable. Donc c'est vrai que les grands-parents, ils doivent bien se mettre en tête qu'ils ne doivent pas non plus s'immiscer partout, et que leur rôle est quand même limité à beaucoup d'accueil, de sourire et d'attention, mais pas non plus, je veux dire, c'est pas eux qui éduquent les enfants. Et si leurs enfants s'y prennent, ils ont l'impression comme des manches avec leurs enfants, il vaut mieux pas le dire, parce que ça sert à rien. Et ça va créer des ressentiments, de l'agressivité. Et au bout du compte, on peut arriver à des conflits extrêmement forts où finalement, ils sont privés de leurs petits-enfants.
Ah donc, c'est pas toujours facile non plus ce rôle de grands-parents, d'autant qu'aujourd'hui, parfois, ces grands-parents ont encore la charge de leurs propres parents.
Oui, alors ça, c'est très dur, effectivement, parce que ça, j'ai entendu souvent, notamment des femmes, qui me disaient à quel point elles avaient l'impression d'être sur tous les fronts à la fois. C'est vrai qu'on vieillit longtemps. Le grand âge, ça existe vraiment. Il y a des personnes qui meurent très âgées. Et donc, ces grands-parents qui voudraient justement un peu profiter de leurs petits-enfants sont un peu coincés dans une charge assez forte de leurs propres parents. Et donc, ils ont le sentiment de Quand ils sont avec leurs parents en train de s'en occuper, ils ont l'impression qu'il ferait mieux d'être avec leurs petits-enfants. Et quand ils sont avec leurs petits-enfants, ils ont l'impression qu'ils seraient mieux avec leurs propres parents. Donc, ils ont le sentiment de ne pas être à la bonne place et de toujours courir après quelque chose. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Mais je crois aussi que les grands-parents ne sont pas non plus corvéables à merci. Hein. Je pense qu'on peut aussi dire... proposer par exemple un schéma, notamment je pense aux grands-parents qui travaillent, hein, aux grands-mères qui travaillent, elles ne sont pas corvéables à merci. Donc on peut dire, là je vais bloquer telle demi-journée, par exemple le mercredi, pour m'en occuper, mais c'est sûr que ce n'est pas moi qui vais aller le récupérer à la crèche s'il est malade. Mmh. Donc il faut que les choses soient claires. Je pense qu'il vaut mieux poser un cadre et savoir dire non qu'ensuite se trouver face à des situations inextricables où tout le monde est furieux parce que finalement, j'avais dit que je le ferais puis finalement, je ne peux pas le faire. Donc, c'est important, au fond, peut-être aussi de fixer des cadres. Je les recevrai un peu pendant les vacances, une semaine sur les petites vacances, que les choses soient un peu prévues et que, comme ça, chacun sait à quoi s'attendre.
Alors, quand ils sont jeunes, les petits-enfants sont souvent proches de leurs grands-parents, mais à l'adolescence, souvent ils s'éloignent. Quelle place peuvent alors avoir les grands-parents dans la vie des petits-enfants ?
Alors, c'est vrai que les petits-enfants sont, par exemple, quand ils partent en vacances, ils sont extrêmement contents d'être comme ça, ne serait-ce qu'à la campagne où il n'y a pas grand-chose à faire, tout simplement chouchouter, faire des gâteaux, du jardinage et de la balançoire. Mais que les adolescents, j'en voyais une hier justement qui revenait de vacances très longues chez ses grands-parents et son cousin. Et là, c'est trop long. Alors je pense parce que les adolescents ont besoin de gens de leur âge. Alors soit il y a, par chance, il y a des cousins qui sont des formidables amis finalement quand ils ont les mêmes âges et ils sont très très contents de se retrouver. Mais quand il n'y en a pas, je pense que les grands-parents doivent peut-être anticiper, les parents aussi, que d'abord ça ne doit pas durer trop longtemps. Et ensuite que si ça dure un peu plus, ils peuvent inviter un copain, une copine, pour que ça soit plus joyeux, quoi.
Et au-delà des vacances, est-ce qu'à l'adolescence, il y a encore une place pour les grands-parents dans la vie de leurs petits-enfants ?
Oui, je pense, mais alors c'est toujours la même chose. Les adolescents, ils sont quand même très égocentrés, donc c'est quand ils en ont besoin. Mais je pense que quand ils en ont besoin, et surtout si le lien a été construit de façon solide dans l'enfance, ils savent très bien que quand ils en ont besoin, les grands-parents seront là. Et moi, je vois quand même des adolescents qui sont très en confiance avec leurs grands-parents. Alors, c'est clair, ils ne leur téléphonent pas tous les jours et parfois, ils ne répondent pas aux messages. Mais quand même, en tous les cas, si ils ont un coup dur ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, souvent, ils vont se tourner vers leurs grands-parents pour se confier. Et puis, ils aiment bien aussi être des recours, et notamment pour tout ce qu'on disait, les nouvelles technologies. Parfois, ils aiment bien aller avoir un coup de téléphone d'un grand-parent qui dit « Est-ce que tu peux pas venir me dépanner ? Là, je suis complètement perdue devant ce truc-là. » Et ils y vont, ils sont très contents. Donc, évidemment que ça dépend de la qualité du lien qui s'est noué quand ils étaient plus jeunes. Mais je crois que c'est un lien qui évolue, qui est différent, qui est probablement moins quotidien, mais qui reste très important. Et je vois même des jeunes adultes qui eux-mêmes ont des enfants qui me disent à quel point leurs grands-parents, qui sont donc devenus âgés, sont importants. Et ils aiment que donc leurs propres enfants, qui sont des arrière-petits-enfants, les connaissent et trouvent que c'est une chaîne merveilleuse. Moi, je pense que la place peut perdurer et que le lien affectif, si c'est construit correctement et de façon forte dans l'enfance, il va perdurer.
Merci Béatrice. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode d'En Famille, le podcast de toutes les familles.
Merci Marie.